Bonsoir. Les consultations politiques initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi, et menées par son conseil spécial en matière de sécurité, Casimir Eberhard Colonelli, se sont clôturées mardi 8 avril. Lancées le 24 mars à Kinshasa, elles avaient pour objectif de rassembler majorité, opposition, société civile et personnalités indépendantes afin de trouver des solutions à la grave crise sécuritaire qui menace l'unité et la stabilité du pays. Pendant 12 jours, des regroupements politiques, parlementaires et extra-parlementaires, ainsi que des membres de la société civile, ont échangé avec Eberhard Colonelli. Tous ont appelé à un sursaut patriotique et soumis des propositions visant à former un gouvernement capable de répondre efficacement à la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la RDC. Cependant, plusieurs partis et acteurs politiques de l'opposition ont boycotté cette initiative, estimant qu'elle ne résoudrait pas la crise sécuritaire actuelle, mais servirait plutôt à consolider un pouvoir en quête de légitimité. Quel bilan dressé de ces consultations nationales pour la formation d'un gouvernement d'union nationale? Participe au débat Fomon Toto, initiateur de la troisième voie. Il est membre de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Fomon Toto, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir Radio Capi, bonsoir à tous qui vont nous suivre à travers le monde.
Avec moi dans ce studio, Rodrigue Ramazani, il est avocat et secrétaire général d'Envol, parti politique de l'opposition, dont l'initiateur est Délice Essanga. Rodrigue Ramazani, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les compatriotes, et ainsi qu'à tous ceux avec qui nous allons échanger ce soir.
Christian Moleka est aussi avec nous dans ce studio. Il est acteur, plutôt analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous nos auditeurs et bonsoir également à mes co-débatteurs.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous trouvez sous la 94.8. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Mais vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, les consultations politiques initiées par le président de la République par l'entremise de son conseil spécial en matière de sécurité, Casimir Eberhard Colonelli, se sont clôturées mardi 8 avril. Durant 12 jours, des regroupements politiques parlementaires, extra-parlementaires de la majorité, tout comme de l'opposition, des forces vives de la société civile, religieux et pouvoirs traditionnels, ont échangé avec Casimir Eberhard Colonelli. Tous ont soumis des propositions pour la formation d'un gouvernement capable de trouver des solutions idoines à la crise sécuritaire à répétition dans la partie est de la RDC. Billy Lutumba pour le reportage.
Une fois ouverte à toutes les forces vives, ces consultations se transforment vite en une tribune de libre expression pour la plupart des délégations qui échangent avec Colonelli. Illustration avec Lambert Mende, reçu comme personnalité ayant marqué l'histoire politique du pays.
Nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par état.
Cet appel au patriotisme revient souvent même chez les opposants comme la jeunesse du FCC, Adolphe Mouzitou, le député d'Ensemble pour la République Iratian Gracien, Marie-Josée Ifoko et Jerry Lubala du parti Nkita.
Si aujourd'hui le président de la République qui est en faute. Vous devez savoir que nous allons à payer parce que le Congo, c'est nous tous qui constituons les corps politiques ou société civile. La main, c'est l'opposition armée ou non armée. Et les doigts, c'est l'opposition, je ne sais pas quoi. La jambe, c'est l'union sacrée ou consort. Et donc, il est question que nous puissions lever un certain nombre d'options. En toute urgence, moi, je préfère même dire, avant la fin de ce mois d'avril, enfin, de permettre à tout le monde à retrouver son jeu politique.
En ce dernier jour, les experts constitutionnalistes, les centristes, la famille Lumumba ainsi que plusieurs autres organisations et forces vives sont restées présentes jusqu'aux petites heures du matin pour exposer leur point de vue aux consultants désignés par le président de la République, Casimir Eberhard Colonelli.
Merci Billy pour ce reportage. Foumoun Toto, je rappelle que vous êtes initiateur de la troisième voie et membre de l'Union sacrée. Quel bilan vous tirez de ces consultations initiées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Consultations qui sont clôturées mardi 8 avril.
Pour nous, le bilan est largement positif. Positif parce que dans les documents portant invitation, consultation politique ou sociopolitique initiée par le président de la République et exécutée par son conseil spécial en matière de sécurité, les documents n'ont pas cité les noms des personnes qui devaient être invitées. Mais il s'agissait simplement d'une volonté d'ouverture politique envers nous-mêmes et envers ceux qui n'étaient pas avec nous, du moins jusqu'à ce péril qui guette notre cher et beau pays. Et maintenant, tous ceux qui voulaient être consultés ont été consultés. Tous ceux qui ne le voulaient pas, c'est de leur pire droit. Et finalement, nous avons clôturé ces consultations et nous pensons que le chef aura désormais toutes les informations qu'il avait besoin pour comprendre davantage, d'approfondir la question et enfin de sanctionner avec le gouvernement d'Union nationale. Donc maintenant, par rapport à ce qu'ils disent, il y en a tel et tel autre qui n'était pas venu, là n'est pas notre problème. Autant le Congolais a le droit d'être consulté, autant le même Congolais a le droit de refuser une consultation. Il s'agit d'une consultation pour écouter les différents points de vue des Congolais sur la question de notre survie, de notre existence. C'est ça le problème. Alors, le bilan est positif.
Peut-on parler de bilan positif lorsqu'il y a plusieurs partis de l'opposition, quelques grandes figures de l'opposition qui ont boycotté ces échanges ou ces consultations?
Il faut que nous puissions poser une compréhension détaillée. Grande figure de l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Deux, il y en a qui se sont dit, il y a paix, qu'ils ne sont pas des opposants, ce sont des résistants. Est-ce que nous les plaçons toujours sur la liste des opposants? Par exemple, le PPRD. Ils disaient, ils ne sont pas dans l'opposition, mais ils sont dans la résistance. Devons-nous dire, l'opposition n'est pas venue? Pourtant, quand nous visitons l'arsenal juridique ou sociopolitique ou sociojuridique de notre pays, il n'existe que des camps politiques en République démocratique du Congo, à savoir la majorité qui a le droit de gouverner et l'opposition qui a le devoir de critiquer et de formuler les cas échéants des contre-propositions sur la gestion des institutions de la République ou du pays dans son ensemble. La loi numéro 007/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition n'appelle pas opposition la figure d'un homme, grande ou petite, n'appelle pas opposition quiconque. Ben, je lis. C'est l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition qui dispose clairement. Au terme de la présente loi organique, il faut entendre par opposition politique les partis ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif ou qui ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal ou local.
Alors, pour montrer tout le temps, on peut se passer de ces personnes qui ont refusé de répondre à l'invitation du chef de l'État.
Non, on ne peut pas se passer de l'État
cherche l'inclusivité.
L'inclusivité ne veut pas non plus dire la globalité. L'inclusivité, même si on peut la souhaiter, elle n'enlève pas le droit des autres Congolais de dire non. Mais de dire en disant que tel n'est pas venu parce qu'il est grand, comme s'il était né grand, et tel autre n'est pas venu comme c'est lui les symboles de l'opposition et la personne indispensable, ça c'est faucher la démarche. Ici, l'opposition, c'est le parti politique qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Et tous les partis politiques qui, jusqu'à la convocation des concertations, n'étaient pas du bord de l'Union sacrée et qui, suite aux consultations, ont accepté de répondre à l'invitation du Conseil spécial du chef de l'État, forme l'opposition. On ne va pas nier dans ce pays qu'Adolphe Bouzid et le Nouvel Élan. Le Nouvel Élan n'est pas un parti de l'opposition. On ne peut pas nier dans ce pays-là que c'est tous ceux qui sont venus avec leurs partis politiques, parce qu'ils ne sont pas grands, on ne peut pas les considérer. Encore faudra-t-il dire, mais qui est devenu grand de ce pays sans passer par les institutions de la République? Mais est-ce que ce sont les derniers grands de ce pays? Non.
Mais comment vous répondez?
La finalité de la démarche.
Comment vous répondez aux critiques de l'opposition concernant le manque de représentativité de ces consultations?
Mais la représentativité n'est pas décrétée par l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a une opposition qui a refusé et une autre qui a accepté, et nous tirons les conséquences à ce sens-là.
Rodrigue Ramazani, vous êtes avocat, secrétaire général d'Envol, parti politique de l'opposition dont l'initiateur est Deli Sesanga. Pourquoi votre parti a-t-il choisi de boycotter ces consultations?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je crois que Monsieur Tshisekedi, en lançant ses consultations, pensait évidemment, à travers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, avoir trouvé la pharmacopée idéale afin de résoudre cette crise. Que malheureusement aujourd'hui, nous sommes à la conclusion de ces consultations, nous constatons qu'il s'agissait plutôt d'une comédie qui frôle quasiment le ridicule. Écoutez, nous sommes en train de parler des choses très sérieuses. Il faudra avoir des postures suffisamment responsables pour comprendre les enjeux et l'avenir que nous courons sur la situation sécuritaire dans notre pays aujourd'hui, en lieu et place de s'amuser dans ce perte de temps. Pendant ce temps, nous comptabilisons des morts. On nous parle de près de 10 millions de déplacés internes. C'est énorme. Ce sont des questions de responsabilité, je tiens à rappeler.
Et justement, la formation de ce gouvernement, ça sera pour mettre fin à cette crise.
Le problème n'est pas lié seulement à un gouvernement, au partage de postes, comme le veut ces consultations. Le problème est plus profond que ça. Parce que je tiens à rappeler que rien n'empêche le pouvoir Tshisekedi d'y résoudre la crise. Le moyen qu'il a demandé, on le lui a accordé. Pour la défense, plus de 1 milliard de dollars l'an, ils l'ont dépensé pendant 3 mois dans le détournement en autre chose qu'à aller résoudre le vrai problème. Ils ont voulu recruter des mercenaires, ils l'ont fait. Ils ont dénaturé l'armée en y intégrant des éléments intrus, les Wazalendo. Ils l'ont fait. Mais est-ce qu'on a trouvé des solutions au problème? Non. Je tiens encore à rappeler que ce n'est pas la toute première consultation sous Tshisekedi, c'est la deuxième. La première consultation avait notamment la question de la solution de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Est-ce que nous en sommes arrivés là? Non. Le problème aujourd'hui, il faut le reconnaître que c'est le pouvoir Tshisekedi qui est un problème. Ou mieux, c'est la personne de M. Tshisekedi qui est problème parce que ce choix de gouvernance a amené ce pays dans l'hécatombe. Nous sommes en train de courir un risque de l'existence de notre nation parce que M. Tshisekedi avait levé des options d'irresponsabilité qui aujourd'hui a envenimé la situation où nous avons nos territoires qui sont occupés pendant plus de 3 ans, où nous avons une armée, des armées étrangères sur notre sol, où nous sommes en train de risquer de perdre une partie de notre territoire, chose que nous ne souhaitons pas. Raison pour laquelle nous l'envolons, après analyse, nous avons constaté que cette consultation n'allait pas apporter la solution au problème des Congolais. La solution à ce problème, nous l'avions dit et nous continuerons à le dire, il est temps que le Congolais se retrouve pour discuter de cette question de manière franche. Parce que M. Tshisekedi...
Et c'était une occasion de discuter de ce problème avec le conseiller du chef de l'État.
Non, ce n'est pas le même format. Il s'agit d'une consultation. Il
s'agit pas,
nous parlons d'un dialogue inclusif autour de ces enjeux. C'est deux formats distincts. Ce n'est pas un monsieur qui... En fait, c'est un peu...
c'est quelqu'un qui est atteint, ou encore mieux, pour essayer de bien l'embellir, c'est quelqu'un qui est atteint d'une pathologie qui veut consulter des médecins. C'est compliqué, ça ne se fait pas. C'est celui qui est atteint d'une pathologie qui est consulté. Donc, M. Tshisekedi étant un problème, ayant beaucoup de problèmes en termes de gouvernance, il ne peut pas consulter le Congolais croyant trouver des solutions. Non. Aujourd'hui, nous courons un risque existentiel. Il est important que le Congolais se retrouve dans un cadre. Et ce cadre-là, le prêtre nous le propose. À travers leur démarche, nous constatons que c'est une démarche avec beaucoup de crédibilité. Le prêtre nous propose un cadre où nous pouvons nous retrouver pour discuter de manière inclusive, afin de renforcer d'abord la concorde nationale. Il y a un problème, madame, on ne peut pas l'ignorer. La crise n'est pas seulement à l'est du pays, cette crise est multiforme, elle est aussi politique et institutionnelle. Au sortir de 2023, nous n'avons pas vécu des élections, mais par contre, c'était un coup d'état électoral. Ce coup d'état électoral a engendré une crise institutionnelle. Ce coup d'état électoral a engendré l'effritement de la cohésion nationale. Et aujourd'hui, la situation est encore plus grave qu'avant. Est-ce qu'il n'est pas le lieu, au nom de la responsabilité, que tous les Congolais, alors de manière sérieuse, arrêtant de jouer, parce que ce que j'ai vu, c'est vraiment une comédie, on a consulté pour concevoir un gouvernement, on a consulté qui on voulait, on a débauché qui on voulait, sans crédibilité, sans patience, je n'aurais pas ici citer ou pointer du doigt certains compatriotes. Mais tous, on a vu le manque de sérieux dans ces démarches. Aujourd'hui, nous pensons, nous, à l'envol, qu'il est impérieux que le pouvoir Tshisekedi arrête ces jeux où il est en train de perdre de temps, parce que ce sont les vies de nos compatriotes qui sont en jeu, l'intégrité du territoire, la souveraineté de notre pays est en jeu. Il est temps que M. Tshisekedi puisse prendre la mesure de la chose pour permettre à ce que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour parler de ce problème et lever des options. Lever des options en tirant des consensus sur certains nombres de questions afin de baliser des chemins pour de réformes, mais aussi d'abord nous permettre à retrouver la paix et la concorde nationale.
Alors, vous critiquez la démarche du président de la République en initiant ces consultations. Vous soutenez plutôt celle des évêques de la SANCO et de l'ECC pour un dialogue inclusif où tous les Congolais vont se réunir pour parler des problèmes qui sont à la base de la crise que nous traversons aujourd'hui. Ça, c'est vous de l'opposition où je parle d'envol. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette partie de la population qui soutient l'initiative du chef de l'État et qui rejette, qui reste quand même méfiante à la démarche de la SANCO et l'ECC. On fait quoi? Pourquoi on devrait croire que c'est que vous voulez, c'est ça qui apportera la solution au problème de la RDC?
Parce qu'il est de toute évidence aujourd'hui que c'est M. Tshisekedi qui est un problème. Comment M. Tshisekedi, qui est le problème, qui nous a emmené dans ce problème, peut nous faire croire qu'il va trouver la solution à ce problème alors qu'il a eu plus de 3 ans pour résoudre cette crise?
Et vous pensez que la SANCO et l'ECC vont trouver la solution à ce problème?
Aujourd'hui, une grande partie de la classe politique et de la société civile, en suivant évidemment l'actualité du pays, comment est-ce que ça évolue, se range derrière cette initiative. Il faut reconnaître que la démarche de l'ECC de la SENCO est soutenue en grande partie par la société congolaise, raison pour laquelle nous disons, parce que cette initiative a une crédibilité, une légitimité, nous pensons qu'autour d'une table, les Congolais retrouvés peuvent discuter et trouver des solutions. Pourquoi nous l'envol, nous insistons que les Congolais doivent se retrouver pour discuter? Parce que, madame, nous l'envol, nous sommes en tout cas, sans fausse modestie, nous sommes un de rares partis politiques qui portent un projet pour l'avenir de ce pays, c'est la refondation du Congo. Nous pensons que le Congo doit être refondé. Et Dieu merci pour nous, que ce soit ceux qui tiennent des armes, que ce soit dans la société civile, que ce soit ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, tous pensent qu'il faut refonder le Congo.
Merci.
Et parce qu'il faut le refonder, il faut arriver à discuter, tirer des consensus sur certains nombres de questions afin de baliser des chemins de réforme pour la mise en place de ce grand projet que nous appelons la refondation du Congo.
Merci.
Mais cela ne peut se faire que dans un cadre inclusif permettant aux Congolais de discuter et de projeter l'avenir.
Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle est votre analyse de ces consultations politiques? Ont-elles été efficaces?
Merci beaucoup pour l'opportunité, madame. On peut constater au terme des consultations que le résultat est à minima. On l'a peut-être rappelé lors des précédentes émissions. Le fait que, dès le départ, le président a posé comme finalité, comme objectif, la mise en place d'un gouvernement de large union nationale, eh bien, les consultations auraient dû servir à construire cette grande largesse du consensus. Or, on ne sort pas de ce consultation avec un large consensus d'acteurs politiques. Il y a énormément d'acteurs qui n'ont pas rejoint la dynamique, et donc on peut en déduire qu'il s'agit d'une démarche à minima.
Alors, ont-elles été efficaces, non? À suivre votre analyse.
Mais l'efficacité se mesure sur base des objectifs.
Avec une partie de l'opposition
pas... Puisqu'on n'a pas atteint les objectifs assignés, on ne peut pas parler d'efficacité totale. On peut simplement dire qu'à minima, on a quand même pu ramener quelques-uns sans atteindre ce qui était nécessaire, à savoir un large consensus pour un gouvernement de large union nationale. Et donc, tant que des pans entiers de ce qui pourrait constituer l'Union nationale ne sont pas réunis, on ne peut pas certifier d'une efficacité.
Et donc, il ne faudrait même pas former ce gouvernement de large Union nationale.
Bon, tout dépendra maintenant des options qui s'ouvrent au président et aux conclusions qu'auront données les consultations. Aujourd'hui, les perspectives telles qu'elles se présentent pencheraient davantage pour un gouvernement d'ouverture qui serait à la base un gouvernement d'union sacrée, mais qui s'ouvrirait vers certains opposants ou quelque chose de civil. On n'aura peut-être pas ce gouvernement largement ouvert à l'opposition que le président a souhaité le 29 janvier.
Alors l'opposition, notamment en vol, estime qu'il faut plutôt appuyer l'initiative des évêques pour avoir ce large consensus par rapport, pour essayer de trouver des solutions à la crise du pays.
Bon, c'est que les consultations nous ont données à la fin, c'est qu'on peut dire que c'est une forme d'entrée des discussions, parce que les perspectives, c'est d'avoir d'autres possibilités de dialogue ou de convergence qui permettent d'élargir le consensus. Maintenant, est-ce que le pouvoir utilisera la démarche des évêques comme possibilité d'élargir le consensus? On connaît la méfiance qu'il y a aujourd'hui entre le gouvernement et l'Église, c'est peu probable. Est-ce que la médiation avec Faure Gnassingbé et les facilitateurs permettront d'avoir une dynamique interne qui élargirait également le cadre de consensus? On est dans des possibilités. Tout dépend des leviers, des options qu'élèveront le gouvernement. Ce qui paraît assez certain, c'est qu'il y a encore un besoin de reconstruire un cadre de discussion à l'intérieur à court, moyen, long terme.
Alors, quels sont les défis, quels pourraient être les défis de la formation de ce gouvernement de large union nationale dans le contexte actuel,
Déjà, le premier défi, c'est la taille. Le président a parlé de réduire la taille des institutions, de réduire les dépenses publiques. Et donc, si vous voulez faire un gouvernement d'union, alors qu'on a déjà un gouvernement qui a une cinquantaine de membres, ça veut dire que vous allez avoir un gouvernement plus large. Alors que la dynamique actuelle, c'est d'avoir moins de dépenses publiques dans les institutions pour pouvoir nous reconcentrer sur la guerre. Le premier défi, c'est la taille du gouvernement, parce qu'un gouvernement réduit, il faudra jouer sur les alliances à l'interne. Le deuxième défi, c'est que l'Union sacrée lui-même a travaillé à remodeler son présidium et son organisation interne, qui a également des conséquences dans le nouveau gouvernement qui se mettra en place. Il est très probable que dans le nouveau gouvernement, certains acteurs en sortent et d'autres puissent y entrer. Et tout ça aura également pour conséquence de créer des frictions au sein de la famille présidentielle. Et peut-être dernier défi, c'est quand vous avez un gouvernement qui n'est pas le produit d'un large consensus, c'est un gouvernement court-termiste. Donc si on le mettrait en place, c'est probablement un gouvernement de maximum une année, 6 mois, une année, pour préparer l'après. Or, les acteurs politiques congolais, lorsque vous les mettez dans un schéma où ils sont dans une dynamique de court terme et donc pas suffisamment rassurés pour le long terme, ils vont travailler, ils ne vont pas travailler dans la sérénité nécessaire d'asseoir les politiques publiques. Ils vont travailler pour assurer leur survie, politique, ils vont travailler à travailler, à trouver le consensus le plus tard. Et donc on n'aura pas un gouvernement suffisamment assidu pour travailler à l'efficacité, parce que les acteurs savent qu'ils sont dans un gouvernement court-termiste, et ils vont donc travailler à chercher la survie politique. Et peut-être dernier élément, c'est que vous avez un gouvernement qui se met en place alors qu'il y a énormément d'initiatives qui se déploient. C'est juste des Doha, du sommet EAC-SADC ou même de la CENCO. Comment vous travaillez à maintenir, une sorte de cohérence et de coordination dans l'action publique? Il y a des ministres qui ont été au chevet des grandes questions. Je pense aux affaires étrangères, je pense notamment également à l'intérieur et à la défense. Comment vous maintenez la continuité de l'action dans les changements des acteurs, dans un contexte où nous avons besoin de coordination, de cohérence et d'efficacité? Un changement d'acteur peut nous amener à avoir des gens qui prendront du temps à la maîtrise des dossiers pour des questions aussi sensibles, et donc on perdrait également en temps en termes d'efficacité et coordination. Il y a toutes ces questions-là qui tournent autour. À côté des profils d'hommes, on connaît la guerre des positionnements au Congo, du choix des profils d'hommes et toutes les conciliabules qu'il faut faire pour faire l'arbitrage au sein des partis politiques. Tout ça nous fera perdre de temps. Et peut-être si le président prend l'option de faire tomber tout le gouvernement, ça veut dire qu'il faudra trouver une architecture constitutionnelle qui justifie ce changement de gouvernement, qu'il faudra présenter au niveau du Parlement, avoir le vote de confiance du Parlement. Vous voyez tout ce que ça conduit comme conséquence en termes de gouvernance à court terme. Donc il y a énormément de défis autour de ce gouvernement qui dépendra des choix qu'élèvera le président.
Amani Fumbu, vous nous suivez depuis la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. Vous posez la question, vous proposez pourquoi ne pas attendre les résultats qui sortiront du dialogue de Doha avec le M23 et autres parties prenantes, que c'est précipité de former un gouvernement qui ne va pas durer. Passion Monga, vous nous suivez depuis la ville de Likasi, dans la province du Katanga, dans la zone Loa Kunda, tandis que la majorité dans la consultation, l'opposition, elle attend l'arrivée de Kabila depuis l'est de la RDC. Jean-Pierre Lodjiringa, merci de nous suivre depuis la ville de Bunia. Dimbo Penguka, vous êtes dans le Bandundu. Merci beaucoup de suivre cette émission. On va demander à la réalisation d'ouvrir le standard pour prendre ces nombreux auditeurs qui appellent, qui veulent donner leurs avis sur le thème de ce soir. Direction, on va aller à Bunia justement pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
Alpha Ben Sirac, depuis la ville de Bunia. À mon humble avis, le bilan des consultations est chaotique puisqu'une grande partie de l'opposition a boycotté cette initiative, estimant inopportune et sans fondement. D'autant plus que les problèmes de l'Est sont pluridisciplinaires et ce n'est forcément pas le gouvernement de l'Union nationale qui résoudra tous ces problèmes. Actuellement, les problèmes qui se posent, c'est la confiance du régime actuel. Le régime actuel avait fait des insultes, des arrestations arbitraires, des intimidations des opposants, leur cheval de bataille. Actuellement, recourir aux opposants jugés piètres avant pour travailler ensemble, c'est comme vivre sous l'épée de Damoclès. Aucun opposant sérieux, soucié des sociétés des Congolais, n'acceptera ces cadeaux empoisonnés, étant donné que le bilan sera partagé. La versatilité du gouvernement en place l'a rendu incongru par ce dialogue envisageable.
Monsieur Fumontoto, comment vous réagissez à l'analyse au point de vue de cet auditeur des Bouniens?
D'abord, une digression. Nous avons, le président de la République a initié les consultations. N'est plus qualifié d'échec ou de réussite que celui qui avait la vision, le projet de société, le programme d'une activité quelconque. Personne n'est dans la pensée du chef de l'État pour savoir exactement qu'est-ce qu'il voulait obtenir comme résultat, parce que tous ces acteurs politiques qui ont dit non, il les connaît très bien et d'avance. Et tous ceux qui ont dit oui, il est censé les connaître. Nous ne sommes pas étonnés par les refus des autres parce que on ne peut pas reconnaître à quelqu'un le statut de l'opposition sans aussi lui reconnaître la possibilité de s'opposer à une proposition issue du pouvoir. Mais parlons de résultats. Est-ce que ce sont les consultations ici terminées qui vont donner les résultats à la guerre ou bien que les consultations ne sont que l'un des moyens pour nous amener à aller vers la solution. J'entends dire, monsieur Ramazan, dire qu'il faut avoir une posture, il faut avoir un projet de société. Malheureusement que ce n'est pas votre question et je n'ai pas compris pourquoi vous lui avez laissé parler. Si nous pouvons entrer dans un débat en termes de sciences politiques, l'État congolais, on ne peut pas le refonder. Quand vous voulez refonder l'État congolais, ça veut dire quoi? Vous voulez lui créer de nouveaux éléments constitutifs? Vous voulez lui créer la nouvelle reconnaissance internationale? Vous voulez lui créer un nouveau peuple? Ça veut dire quoi la refondation de l'État? Est-ce que c'est l'État qui pose problème? Est-ce que c'est l'État qui mal gouverne le pays? Ça n'a pas de sens. Si vous dites que c'est un projet de société, est-ce que vous avez eu le temps d'écouter le développement triade que la troisième voie, comme courant de pensée et l'idéal patriote, mon parti politique propose? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que le chef de l'État a initié des consultations et qu'il y a des gens qui sont venus et d'autres ne sont pas venus. Et votre question, c'était de dire les consultations sont sans succès parce que les grandes figures de l'opposition ne sont pas venues. Et moi, j'ai posé la question de savoir, grandes figures de l'opposition par rapport à quoi? À la beauté de leur figure, à l'histoire politique, aux actes positifs qu'ils auront posés ou qu'ils ont posés dans le passé. Tous ces opposants-là, si vous pouvez prendre, ce n'est pas acceptable avec vous. C'est Sanga opposant, c'est un fonctionnaire de la République d'hier. Il a géré le pays, il fait partie des gens qui ont tué, qui ont pris les armes, qui ont tué ces Congolais. Depuis quand il a commencé à aimer les Congolais qu'il a tués hier. Si nous prenons Joseph Kabila, depuis quand il est devenu grande personnalité, si ce n'est pas le Congo qui lui a enrichi. Quel est le jour qu'il a fait un débat politique contradictoire comme celui que nous sommes entrés dans le monde aujourd'hui? N'est-il pas arrivé ici avec des bots? N'est-il pas arrivé ici avec des rebelles? N'est-il pas arrivé ici avec les James Kabarebe et les autres? Et si aujourd'hui, notre armée a du mal, a des difficultés pour survivre, mais qui sont parmi les principaux destructeurs de notre armée? On peut citer Sesanga, on peut citer Kabila, on peut citer les autres. Non, ce n'est pas ça le débat. Nous ne pensons pas qu'il y a des Congolais indispensables, au même moment que nous ne pensons pas qu'il y a des Congolais inutiles. Le président, dans sa modestie, a invité les gens qui ont refusé de venir. On nous dit non et ils attendent le dialogue de la CENCO. Ils vont l'attendre pour longtemps. Nous, on n'a pas lancé les dialogues. Consulter n'est pas dialoguer. Vous voyez qu'il est dans une digression. Oui, il y a des dialogues. Il y a les dialogues qu'ils attendent au niveau de la CENCO et il y a les dialogues ou les négociations ou les pourparlers directs entre l'M23 et le gouvernement de Kinshasa. Nous sommes à Doha. Maintenant, leur processus de la CENCO, là, ils auront tout le temps pour attendre. Comment on peut attendre avoir des médiateurs qui sont des parties prenantes négativement au conflit? Aujourd'hui, M. Fulgence Muteba vient de passer aux aveux qu'ils ont été au Rwanda, passé par là pour aller récolter, pas les avis, mais de l'argent. Maintenant, nous
il
devons
pas déformer ses propos, M. Fumontoto.
S'il vous plaît, ça c'est moi qui interprète. Je n'ai pas dit je déforme, mais je comprends. J'expose ma compréhension. Ils ont reçu l'argent. Les journalistes étaient précis. Vous avez reçu de l'argent de la part du pays qui agresse votre pays. Vous voyez, maintenant, l'argent là, c'est combien? Ils sont allés prendre ça. Pourquoi? Et puis, nous sommes dans un état laïque, article premier de la Constitution. J'ai en face de moi un juriste. Quel est le statut juridique ou la qualité juridique de la CENCO pour nous inviter, nous les Congolais? Quelle est la qualité juridique de l'ECC pour nous inviter, nous les Congolais? Et puis, aujourd'hui, hier, il y a peu, nous avons, nous, voulu changer la Constitution et ils ont réagi qu'on ne peut pas toucher à ce pacte social. Mais lorsque vous acceptez de créer un pacte social qui va diriger le Congo pendant 30 ans, et vous dites que c'est une approche holistique, holistique veut dire qui inclut tous les aspects de la vie, comment pouvez-vous apprécier la possibilité d'avoir des médiateurs religieux, mais qui, dans leur projet de société, violent la Constitution parce qu'on ne peut pas appliquer les pactes sociaux sans violer la Constitution, sans tuer la Constitution, sans arrêter la Constitution. Et ils ont tiré cette souveraineté d'où? Ils tenaient. D'abord, c'est la République démocratique du Congo qui est membre des Nations Unies. C'est la République démocratique du Congo qui est membre de l'Union africaine. C'est la République démocratique du Congo qui est membre de toutes les organisations sous-régionales. Et vous voulez que nous puissions nous laisser faire pour aller nous diminuer afin de créer des médiateurs qui, du reste, nous connaissons, qui sont des acteurs politiques autres que nous. Nos amis qui continuent à attendre leur dialogue. Nous, on a parlé des consultations et ceux qui ont respecté l'autorité du chef de l'État ont répondu qu'elles viennent ou ne viennent pas, Nous sommes en cours de mandat. Nous
et vous pensez que ce gouvernement d'union nationale va résoudre ou va arriver à mettre fin à cette à la crise que nous traversons aujourd'hui, surtout la crise sécuritaire?
Ce n'est pas le gouvernement d'union nationale qui trouve des réponses aux problèmes. Le gouvernement d'union nationale n'est qu'une pédagogie à la recherche des Congolais, des nationaux intellectuels, intelligents, moraux et patriotes.
Mais l'objectif, si nous avons c'est la mise en national, place.
Oui, allez-y.
La mise en place de ce gouvernement d'union nationale, c'est quoi l'objectif? On veut quoi? On attend quoi de ce gouvernement?
Nous avons des objectifs connus. Les succès des Congolais et la fin de la guerre à l'est du pays. Les deux objectifs sont là. Alors, si nous avons des Congolais
et l'actuel gouvernement ne peut pas, résoudre ces problèmes, les problèmes sociaux, le problème de sécurité, l'actuel gouvernement, le gouvernement soumis en place n'est pas en mesure de résoudre ces problèmes.
La conséquence des consultations nationales peut aboutir au remaniement du gouvernement. Le remaniement du gouvernement dans les cas d'espèce de dire on maintient la PM, la première ministre, et on change là où ça n'a pas marché. Ça s'appelle le remaniement. Pourquoi? Parce que l'article 78 de la Constitution dispose que le président dit qu'il nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Pour ne pas trop bouger, Christian, moi le cas effleuré quelque part à cet aspect. Et d'autres questions, on peut dire que le chef de l'État peut apprécier de changer le gouvernement, ça veut dire en nommant un nouveau premier ministre. Mais pour moi, je souhaiterais qu'on maintienne la première ministre qui est là et qu'on fasse seulement le remaniement pour ne pas avoir de difficultés au regard de la stabilité constitutionnelle, parce que même dans les consultations là, la fiche qui est là, c'est bien dit, la suprématie de la Constitution, ça veut dire tout ce qu'on pourra poser comme acte doit être conforme à la Constitution.
Merci, monsieur.
Donc, nous avons voulu les consultations et nous avons eu ces consultations avec ou sans les autres pourvu que le Congo gagne.
Merci. On va aller à Kananga cette fois-ci pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
Kaikai Kabasele Kalumba, depuis la ville de Kananga, province de Kasai Central. À mon humble avis, les consultations politiques pour la formation du gouvernement d'Union nationale ont abouti à un résultat positif du fait que la majorité de la population, représentée par plusieurs acteurs politiques et sociaux, a été consultée malgré les refus d'une frange de l'opposition. J'appelle l'opposition politique congolaise à la prise de conscience pour la cause commune d'une seule nation RD congolaise que nous avons et qui fait face à l'agression et aux différents groupes armés. Pendant la guerre, les divergences de vues caractérisées surtout par la division ne servent à rien et ne peuvent jamais contribuer à la paix sociale et au développement de la communauté. C'est dans l'unité que la République démocratique du Congo franchira les barrières et les plans de ses ennemis. L'union fait la force, dit-on.
Rodrigue Ramazani, l'union fait la force.
Écoutez, Madame Kelly, bon, je peux comprendre les difficultés de mon co-débatteur Fumutoto qui a du mal à se retrouver dans ses notes de sciences politiques avec la réalité de la gestion du pays. Il a raison que le Congo, il est difficile de refonder l'État parce que lorsqu'il regarde ses théories de sciences politiques et la réalité de la manière dont le pays est conduit, il se demande. Oui, effectivement, le Congo a des difficultés, il faut refonder. Nous n'avons pas une armée. Je ne parle pas des hommes qui tiennent des armes, je parle d'une armée. Donc s'il va dans ce cours de sciences politiques, il verra la définition d'une armée. Mais lorsqu'il regarde les hommes qui tiennent des armes, il va comprendre quelle est la différence. Je dis qu'il n'y a pas d'administration au Congo. Non, je ne parle pas d'un bureau où des gens siègent. Je parle d'une administration qui est ténue. L'administration du territoire qui maîtrise les nombres effectifs de la population. Oui, c'est ce Congo-là qu'il faut refonder. Il faut changer le modèle de la gouvernance, il faut revoir notre pacte républicain pour retracer l'avenir de ce pays. D'où nous parlons de la refondation du Congo. Nous avons présenté notre projet publiquement. Bon, il dit qu'il en a un, je ne sais pas si les Congolais le savent, mais aujourd'hui, il est de toute évidence que toute la classe politique, dans la majeure partie en tout cas, que ceux qui tiennent des armes et ceux qui ne tiennent pas de la société civile, sont d'accord avec cette logique. Il faut
faut refonder ce pays. Nous sommes tous d'accord qu'il faut refonder le Congo. Il faut amener cette nouvelle impulsion en termes de vision. Bon, après, il y a des attaques habituelles. Dédé Sessanga a fait la rébellion, mais il faut lui rappeler qu'à l'Union Sacrée, il y a même des seigneurs de guerre. Je lui rappelle que au lieu de citer que Dédé Sessanga, il aurait dû citer avoir assez de courage pour citer Jean-Pierre Bemba, la mère Mende et tous ceux qui sont avec eux aujourd'hui. Et Étienne Tshisekedi, parce qu'il a été un de grands soutiens de mouvements rebelles dans ce pays. Je crois qu'il ne les citera pas pour les intérêts que nous connaissons tous. Il y a des choses à protéger. Mais Dédé Sessanga a fait une lutte contre un pouvoir illégitime. Aujourd'hui, Dédé Sessanga, c'est un des patriotes qui défend farouchement le pacte républicain, la constitution de ce pays. Parce que eux, hier, ils voulaient changer la constitution. Nous, au sursaut national, ensemble avec Dédé Sessanga, nous nous sommes battus pour protéger ces pactes républicains. Aujourd'hui, ces revirements m'étonnent beaucoup. Bon, les difficultés de l'armée. Aujourd'hui, si notre armée a des problèmes, c'est parce qu'on a donné plus de 1 milliard de dollars au pouvoir Tshisekedi par l'entremise de la loi de programmation militaire. En lieu et place de le servir dans l'armée, ils l'ont utilisé pour détourner des fonds de marché d'armement, pour payer des sommes faramineuses aux mercenaires et les jeter en pâture, en désordre, à travers le recrutement de Wasalim. Donc le problème, c'est leur gouvernance. Le problème, ce n'est pas nous. Donc le problème aujourd'hui,
alors, au cas où,
c'est M. Tshisekedi et ce n'est pas ces femmes-là qui aujourd'hui le dialogue, les derniers espoirs qui restent au Congo.
Vous insistez sur le dialogue au cas où le chef de l'État ne cédait pas, ou n'acceptait pas d'organiser ce dialogue que vous réclamez. Qu'est-ce qui va se passer?
Écoutez, nous n'allons pas mettre la charrue avant le bœuf. Ce qui est important aujourd'hui est que nous soutenons une démarche. La démarche que nous soutenons, c'est la démarche des évêques, qui semble être crédible. Et heureusement que M. Mfumutoto, qui est en face, n'a pas rejeté la crédibilité de cette démarche. Donc la démarche des évêques est crédible, la démarche des évêques est légitime. Nous croyons que l'arbre à palabre, de manière inclusive, nous permettra évidemment d'abord à retrouver rapidement la paix en faveur de notre population, mais aussi à cimenter la cohésion nationale afin de nous permettre d'affronter nos défis. C'est ça le souci. Le souci, ce n'est pas de se partager les strapotins, parce que ceux qui sont à l'Union Sacrée, ils ont peur. La peur au ventre qu'ils ont, c'est de perdre leurs bénéfices, leurs intérêts, leurs petits intérêts. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas des strapotins.
Est-ce que vous ne voyez pas aussi vos intérêts?
Nous, les intérêts que nous voyons, c'est la paix. C'est la concorde nationale qui est effritée aujourd'hui. Eux, ils voient le poste ministériel et le poste dans les entreprises publiques. Nous sommes dans deux approches différentes. Alors, pour nous, c'est d'abord la paix au pays, raison pour laquelle nous soutenons la démarche des évêques. L'union fait la force, effectivement, cette compatriote a raison que l'union fait la force. Mais cette unité, il faut la construire. Il faut la construire à travers un dialogue sincère entre le Congolais sur la situation sécuritaire à l'Est, sur la situation politique du pays. Vous vous rendez compte, madame, nous sommes dans un pays où le président de la République, il n'y a pas longtemps, il était en campagne pour changer la constitution, le pacte républicain. Nous sommes dans un pays où le président de la République a traité de tout le nom d'oiseau ses compatriotes. Nous sommes dans un pays où la situation sociale est chaotique, alors que nous voyons X et Y personnes qui sont au pouvoir vivent dans l'osace inexpliquée. Voilà pourquoi nous disons qu'il est important aujourd'hui que ce dialogue inclusif puisse avoir lieu afin de permettre aux Congolais de discuter de problèmes du pays pour jeter de base de la refondation du Congo.
Direction Kisangani dans la province de la Tchopo pour écouter ce dernier auditeur.
J'appelle la partie de Kisangani, M. Blaise Atoub. À mon avis, c'est un bilan mitigé. C'est toujours l'Union Sacrée qui consulte l'Union Sacrée. Il aurait fallu qu'il ait les remaniements du gouvernement. Le gouvernement large Union Nationale aura quel le statut juridique? Les partis politiques de l'opposition n'ont pas répondu favorablement pour éviter les débouchages. Ce gouvernement aura le défi. Premièrement, les intérêts politiques des différents partis politiques pourraient rendre la gouvernance difficile, surtout si les accords ne sont pas clairement définis. Les divergences idéologiques ou personnelles pourraient freiner l'efficacité de ce gouvernement. Deuxièmement, les risques de division. Ce gouvernement vise l'unité nationale. Il peut également exacerber les rivalités existantes et des tensions au sein de même de l'unité nationale. Si certains acteurs se sentent marginalisés ou non représentés équitablement. Troisièmement, la légitimité auprès de la population. Cette dernière pourrait percevoir l'unité politique comme une réponse aux enjeux stratégiques. Cependant, elle pourrait aussi en douter si les conditions de vie de la population ne s'améliorent pas rapidement ou si l'agression continue sans solution tangible.
Christian Moleka.
Bon, je peux dire que je partage en partie hein, l'analyse de mon compatriote Blaise Aïnda.
Blaise Saïdi.
Saïdi plutôt, depuis Kisangani. Effectivement, comme je le dis, le bilan il est à minima, donc il est assez mitigé parce que la large ouverture n'a pas été obtenue. Oui, effectivement, je pense également qu'on pourrait aller vers un remaniement technique pour permettre une ouverture et pas forcément un chamboulement. Je partage également son regard sur les vrais défis, hein, les défis de remettre derrière la gouvernance au profit de jeux politiques. Nous sommes malheureusement dedans au Congo. Nous avons tout le temps des crises et à la fois artificielles et réelles qui font que ces crises conduisent à des palabres, des discussions, des concessions politiques qui remettent en arrière les questions techniques de gouvernance. Donc lorsqu'on va faire ce gouvernement-là, on ne tiendra pas forcément compte des priorités techniques, on tiendra compte des agendas politiques. Et cet agenda politique prend le dessus sur les questions de développement, il prend le dessus sur les attentes des citoyens, et fort malheureusement, c'est un jeu qui est cyclique et qui revient régulièrement et qui s'inscrit dans l'ADN du Congolais, à savoir créer des crises artificielles, négocier, accéder au pouvoir par ce jeu-là, et travailler à sa propre survie politique, malheureusement. Je suis également d'accord sur le fait que ce gouvernement peut également créer des dissidences au sein de la famille politique du président. On l'a déjà vu avec la reconfiguration de la majorité, et donc un gouvernement réduit qui s'ouvre à l'opposition et donc avec moins de sièges pour la majorité présidentielle peut être source des tensions pour certains. Et puis votre dernier point sur les enjeux de légitimité, bon, c'est à discuter, ce qui est vrai. C'est que nous ne sommes plus dans la logique classique où vous avez une majorité au Parlement qui va gouverner avec une opposition qui critique. Lorsque vous mettez en place un gouvernement de large union, ça veut dire que vous êtes dans une logique consensualiste, parce que j'espère que les politologues me suivent, dans une démarche consensualiste, il n'y a ni opposition, ni majorité, vous êtes donc ensemble dans la gouvernance, et dans cette logique-là, le Parlement perd sa capacité de contrôle. Comment vous allez avoir un Parlement qui va faire un contrôle quand vous avez une démarche consensualiste où tout le monde est dedans? Donc déjà, les opposants ne feront plus l'opposition criticiste au sein du Parlement. Et ensuite, au niveau de la majorité, on ne saura pas faire tomber les opposants. Donc on revient pratiquement à un schéma où le Parlement perd de sa vigueur, un peu comme durant la transition de 1+4, où vous avez un Parlement qui ne va pas jouer ce rôle de contrôle face à une démarche consensualiste et qui est essentiellement politique. Donc oui, il y aura un vrai problème d'architecture institutionnelle et donc d'efficacité institutionnelle qui va se poser si on va dans ce schéma consensualiste. Mais bon, ce n'est pas nouveau que le Congo adopte ce modèle consensualiste qui pratiquement depuis 2006 est de plus en plus promu. Il y a des vrais défis effectivement derrière ce gouvernement d'union.
Ribo Ngoi depuis Lubumbashi dans le Katanga, la non-participation de l'opposition à ces consultations initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi devient un handicap pour la cohésion nationale dans notre pays. Merci à Monsieur Obed Dongo qui nous suit depuis Kwamout dans le Maïndombe. Norbert Louvoulard, bonjour Radio Capi. Cette consultation ne produira rien car l'Union Sacrée, ça sera l'Union Sacrée, nouveau format. Seul le dialogue prôné par la CNCO et l'ECC peut sauver le pays. Le président de la République étant le problème, ne peut être juge et parti. C'est Norbert qui nous écrit depuis Lubumbashi. David Wedi, vous nous suivez dans la province du Sankuru. Voilà, il y a beaucoup de réactions des internautes qui nous suivent en direct sur la page Facebook. Alexandre K.H. Le Grand, le Congo a besoin d'un vrai gouvernement cette fois-ci, pas un gouvernement des détournements. blanchiment, jouissance, corruption, non-état, insécurité au pays. L'UDPS doit être sincère. L'échec sera leur mort finale. Merci à ingénieur Éloge Kasserik. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. On va vous demander de conclure. Soyez concis dans vos conclusions. Foumon Toto, comment garantir l'inclusivité, la représentativité du gouvernement, hein, d'Union nationale, afin qu'il puisse bénéficier du soutien de toutes les forces vives du pays?
D'abord, les consultations restent ouvertes. Ensuite, il faut savoir que tout le monde qui a été consulté n'a pas été télévisé. Troisième chose, ainsi, l'affaire justifiera le moyen. Ou quatrième élément, ce ne sont pas les consultations ou les différents gouvernements de l'Union nationale qui ont posé problème. Contrairement à l'envoi, nous ne parlons pas de la refondation du Congo, parce que pour nous, la troisième voie, le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. C'est l'homme congolais qu'il faut changer, et une fois qu'il est changé, le Congo change. Ça veut dire qu'avec ces consultations, si le président de la République, par son casting, réussit à avoir le Congolais scientifique, les Congolais moraux et les Congolais patriotes, même sans l'inclusivité des partis politiques et des acteurs politiques, nous avons la solution aux problèmes sociaux et aux problèmes de la guerre à l'est du pays. Mais même si nous passons tout notre état à avoir l'inclusivité, il y en a eu avec un gouvernement, un plus 4. Delis Sessang a été ministre. Qu'est-ce qu'il a changé dans les choses?
Non. Merci. Il faut conclure.
Je peux terminer?
Oui, il faut conclure. On ne revient pas sur Delis Sessang.
Non, mais parce que on ne peut pas prendre les mauvais modèles comme un exemple à
nous
suivre.
Nous sommes à la fin de l'émission.
Sessang n'est pas un modèle. Kabila n'est pas un modèle.
Nous sommes à la fin de l'émission, monsieur Foumou Toto. Il faut conclure.
Merci. Mais ma conclusion, c'est ce que j'ai dit. Wet and see. Les consultations sont terminées, le gouvernement va venir. Un nouveau gouvernement, un gouvernement d'ouverture, la fin va justifier les moyens. Et je crois que cette fois-ci, le président a dit qu'il va tomber sur les bonnes personnes. Et ce sont ces bonnes personnes qui vont donner les bonnes réponses aux problèmes du peuple congolais.
Rodrigue Ramazani, comment l'opposition peut-elle contribuer à renforcer la stabilité et l'unité du pays dans ce contexte de crise?
Bon, j'aimerais bien dire à Fumoto quelque chose s'il veut savoir.
Il faut conclure, Rodrigue. Nous sommes à la fin, l'émission.
Je conclue rapidement. Oui, Delis Sessang est un modèle parce qu'il veut savoir ce qu'il a fait au ministère de plan. Le plan de CRP.
Vous n'allez pas nous énumérer. Ce n'est pas le terme de ce soir.
Le plan de CRP, c'est l'ancien ministre du plan Delis Sessang qui l'a exécuté, qui a amené à la fin de la dette publique. Donc, si Fumoto ne sait pas, il peut s'informer. Maintenant, pour finir l'émission aujourd'hui, je crois que l'envol a donné sa position. C'était avec raison que nous avons refusé cette initiative de consultation nationale en vue de partager des postes et renforcer le pouvoir Tshisekedi. L'envol avait raison et aujourd'hui, je crois qu'à la conclusion, nous constatons qu'évidemment, le résultat n'est pas du tout fameux et qu'il n'y a pas d'espoir demain. Cependant, je tire la sonnette d'alarme. Que nous courons un risque existentiel. J'invite M. Tshisekedi à ravaler son orgueil afin de regarder la réalité en face pour accepter la main tendue des évêques. Parce que les évêques proposent un schéma. Ce schéma, toute la classe politique, une grande partie de la société civile est d'accord avec ce schéma parce que ça nous permet d'avoir des discussions inclusives sur la situation du pays. C'est dans ce cadre-là que nous pouvons jeter de base pour de réformes afin d'espérer sur la refondation du Congo, ce grand projet que nous portons ensemble avec Denis Sessanga.
Christian Moleka.
Moi, je dirais que nous sortons des consultations avec un statu quo qui redéfinit à nouveau notre classe politique. Vous avez des lignes qui n'ont pas pratiquement bougé, avec des configurations qui sont restées pratiquement les mêmes. Et donc, le défi aujourd'hui, c'est comment créer de nouvelles convergences à l'intérieur pour essayer de faire bouger les lignes. Parce que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Et sortir un peu de cette forme de sclérose. L'histoire est têtue. Hein. Durant la première transition, le fait que l'élite politique n'a pas pu trouver une solution politique au conflit avait justifié les recours aux armes. Il ne faudrait pas que la classe politique congolaise se perdent en conjecture et posent les pays à une nouvelle justification des armes à l'Est. C'est une réponse à la guerre, c'est la capacité de l'élite au Congo à trouver une solution politique à Kinshasa, et ça passe par un sursaut de l'opposition et de la majorité.
Merci Christian Moleka. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Étienne Lissoumbou et Bertin Kassiama qui m'ont aidé à préparer ce magazine. La mise en onde était assurée par Billy Betou. Derrière les caméras, Jonathan Folani, Hervé Vokia et Clément Chimanga. Martha Sebujangwe a supervisé ce programme. Coordination et présentation, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Mais n'oubliez pas de retrouver le temps fort de cette émission sur les comptes officiels Instagram, TikTok de Radio Okapi. Likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Au revoir.